Débat et controverse sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
Il est 9h07 sur BFM Business. Les experts, aujourd'hui on est ensemble et en direct jusqu'à 10h. On va parler évidemment de budget. Quelle piste pour trouver des économies? On cherche toujours 40 milliards d'euros pour rien que pour cette année. Des pistes, des réflexions, des discussions. On en est là à peu près dans ce que nous raconte François Bayrou. Il est désormais pressé de présenter un plan d'ici le 14 juillet. Est-ce que l'année blanche est une solution? La TVA sociale, s'attaquer à quelle niche fiscale? On va regarder tous les scénarios ensemble. L'avenir appartient à la vieillesse. Pour la première fois en France, les plus de 50 ans sont désormais majoritaires dans le corps électoral. 52% de la population en âge de voter. L'avenir appartient à la vieillesse, c'est quand même un problème pour aujourd'hui, mais on comprend mieux pourquoi on ne parle que de retraite dans le débat public. On va évidemment parler de guerre commerciale. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour les États-Unis? Qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres de la croissance, en tout cas sur les questions de dette? Il y en a un qui s'inquiète. Alors, c'est pas la première fois, évidemment, hein, ça fait plusieurs fois qu'il le dit, mais le patron de JP Morgan redoute une crise du marché de la dette américaine. Est-ce que nos experts aussi, on verra ça dans un instant. On essaiera de parler du marché de l'aérien avec ce loupé sur le nombre de passagers. On n'atteindra pas les 5 milliards cette année, mais enfin quand même, le secteur se porte plutôt bien. Et puis on parlera du cartel de la livraison de repas avec cette entente originale. C'est parti, les experts, je vous les présente. Isabelle Mateos Ilaogo, bonjour, vous êtes la directrice des études économiques de BNP Paribas. Emmanuel Combes, en face de vous, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur à la Schema Business School. Vous êtes senior advisor chez Image7 et co-auteur de Le transport aérien, la découverte. Ce sujet aérien est donc pour vous.
Denis Bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Rexecode. On commence peut-être avec notre sujet budgétaire et c'est pas cette interview dans le Figaro ce matin, mais enfin, il y a quelques pistes de François Bayrou qui commence à préparer les esprits pour faire en sorte qu'on fasse des économies. Isabelle Mateos Ilaogo, qu'est-ce que vous préférez comme piste? Est-ce que vous préférez l'année blanche? Est-ce que vous préférez la TVA sociale? Est-ce que vous voulez vous attaquer aux niches fiscales? Quel est le scénario économique que vous préconisez?
Bonjour Laure, bonjour à tous. Tout d'abord, je dirais que c'est extrêmement important que ce débat avance. Moi, je reviens de 2 semaines en Asie et je peux vous dire que c'est une question qui m'a été posée dans toutes les réunions, le monde entier.
Quand est-ce qu'on va faire des économies?
Oui, regarde ce qui se passe dans le débat budgétaire en France et quand est-ce qu'enfin la France va trouver une solution à son problème de dette publique. Donc c'est vraiment un sujet important. C'est pas juste du nombrilisme franco-français de s'atteler à trouver une solution. L'enjeu est majeur. Sans mesures additionnelles, le déficit resterait sur une pente de 6% un horizon indéfini. Ça a été confirmé par le FMI aussi très récemment. Donc, il faut trouver des pistes d'ajustement budgétaire de l'ordre de 1% par an pour atteindre l'objectif de ramener le déficit à 3% en 2029. Bon, la plupart des pistes qui ont été évoquées jusqu'à maintenant touche à la fiscalité, alors que véritablement, là où la France sort du lot, c'est sur les dépenses. On a un niveau de dépenses publiques qui est plus élevé qu'avant le Covid. On est à peu près le seul pays européen dans cette situation. Et ceci résulte en partie du fait que toutes les prestations sociales, toutes les dépenses publiques ont progressé soit au niveau du PIB, soit plus rapidement que le PIB, alors que les recettes, elles, ont progressé moins rapidement. Et donc, toutes les pistes qui visent à dire « Ah ben, il faut encore augmenter la fiscalité », moi, j'ai un petit peu de mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toucher à rien. Il y a effectivement un sujet de niche fiscale qui a d'ailleurs été identifié par le FMI comme un sujet à regarder de près. Ces niches fiscales ont tendance à être inefficientes, à poser des problèmes de complexité, d'opacité, d'équité éventuellement. Donc ça, c'est absolument un sujet à regarder. Mais pour ce qui est de taxer davantage, et en particulier l'idée de taxer la consommation, alors que la consommation, c'est 75% du PIB, et que la France a un taux d'épargne record, on est à 18,8% d'épargne contre 15% avant la pandémie. On est l'un des rares pays européens encore où le taux d'épargne n'a pas commencé à baisser. Moi, ça me paraît un petit peu contre-productif.
Donc, on n'est toujours pas sur le sujet dépenses, Emmanuel Combes, Denis Ferrand.
Oui, c'est vrai que
si on n'arrive pas à s'attaquer à ce sujet.
Et si on pouvait consacrer à peu près 10% du temps que l'on consacre à parler de fiscalité, à adresser vraiment le sujet de dépenses, on aurait déjà fait un grand pas en avant. Parce que c'est vrai que, pour autant, le diagnostic a été fait récemment. Rappelez-vous ce croquis qui a été montré lors du rendez-vous du président de la République dernièrement, où il montrait la répartition des grandes masses. On voit bien qu'il y a un bloc qui emporte en réalité plus de la moitié des dépenses, qui est le bloc des dépenses sociales, que ce soit soit les prestations pour la santé, que ce soit aussi les prestations, bien entendu, de retraite. Mais derrière, pour bien comprendre aussi ce que représente la dépense, en fait, la première des étapes, c'est d'avoir une connaissance du signal prix. Par exemple, est-ce que vous savez aujourd'hui, quand vous avez un accident de santé, est-ce que vous savez combien vous allez payer ou combien la collectivité paye sur la prise en charge de cette dépense.
Donc, tout ce qui n'a pas de prix est gratuit, quoi.
C'est voilà, tout ce qui n'a pas de prix est gratuit. Et d'une certaine manière, vous ne créez pas le frein spontané qui viendrait de la connaissance
que l'on a de la dépense.
Il y a déjà une connaissance de l'addition qui est à faire pour toute opération. Je pense que c'est déjà le préalable. Donc, il y a une forme aussi d'éducation qui est importante. Et puis après, effectivement, on vient très rapidement sur les niches fiscales. Mais... Quand on réfléchit sur les manières d'ajuster les niches fiscales qui sont parées de tous les maux. Et c'est vrai que certaines, en fait, on se dit, mais elles sont totalement inefficaces ou elles sont anti-redistributives. On va penser, par exemple, à la niche fiscale pour l'emploi à domicile. On sait très bien que ça profite principalement à des personnes qui ont un niveau de rémunération plutôt plus élevé que la moyenne. Et donc, la niche fiscale, effectivement, va être dans le viseur.
Vous demandez à O2 s'il est d'accord pour arrêter avec la niche fiscale sur le travail.
C'est pas gagné.
Il va vous dire, moi, ma concurrence, c'est le travail au noir. Direct, je mets des gens au chômage. Hein.
Deux choses. C'est qu'effectivement, il faut regarder la redistribution immédiate qui est introduite par la niche fiscale. Donc, effectivement, c'est anti-redistributif parce que ça bénéficie aux personnes qui ont les plus hauts revenus. Mais c'est aussi anti-redistributif à long terme, pour les raisons que vous évoquez. S'il n'y a pas la niche fiscale, il y aurait plus de travail au noir. Et ce faisant, qui est-ce qui est perdant? Eh bien, ce sont les salariés qui, en réalité, vont devenir des travailleurs noirs, ne vont pas accumuler des droits pour leur retraite ultérieure. Et là, ça devient vraiment, vraiment problématique. Et surtout, les niches fiscales doivent toujours être regardées par rapport à la déviation qu'elles viennent corriger.
C'est ça quand même le sujet. Oui. C'est qu'au départ, il y a un peu trop de charges.
Il y a un peu trop de charges à l'origine. Et donc, si vous regardez la niche fiscale sans regarder le motif pour lequel on a mis en place cette niche fiscale et qui souvent procède d'une surintervention de l'État, alors vous faites
comme
simplement la
charges,
moitié.
Hein.
Voilà, comme les allègements
de charges,
la moitié du chemin.
Moi, je répondrais à votre question de deux manières. Il y a le court terme. Oui, il faut faire des économies. Je crois pas qu'il y a grand chose, malheureusement, à gratter. Enfin, le déficit primaire, c'est quoi? 110 milliards, à peu près? 120 milliards? Il faut raboter les niches fiscales pour des raisons symboliques. Mmh. Parce qu'en effet, c'est foncièrement injuste.
Mais du côté. Comme les aides privées, quoi.
Voilà. Donc, du côté de la fiscalité, je rejoins Isabelle. Du côté de la fiscalité, on peut pas faire grand chose. Vu le taux de pression fiscale, c'est quoi? 48% à peu près, un des plus élevés de l'OCDE. Donc, oui, il faut afficher, il faut montrer qu'on fait des choses. Mais c'est pas là-dessus qu'on va significativement jouer. Donc, du côté des recettes, j'y crois pas. Du côté des dépenses, et là, je serais pas tout à fait d'accord avec Isabelle, la France aime la dépense publique. Surtout parce qu'elle a pas de signal, hein. On a toujours l'impression que tout est gratuit en France. Je crois qu'il y a pas de marge de manœuvre. Mais il y a qu'une troisième solution, et on la connaît cette solution. Les économistes en parlent depuis 10 ans, mais on les écoute pas. Si vous voulez avoir plus de recettes fiscales, il faut que le gâteau soit plus gros. Le gâteau, ça s'appelle le PIB, la richesse. On ne produit pas assez en France, mais on le sait. Enfin, on l'a dit 50 fois sur ce plateau, mais il faut le redire une nouvelle fois. Le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui participent activement, c'est 69% en France. En Allemagne, qui n'est pas un pays anglo-saxon ultra-libéral, 77%. Si les Français travaillaient collectivement, pas individuellement, souvent on me dit « Ah, vous voulez qu'on travaille plus ?» Non, collectivement. Si on travaillait à peu près comme les Allemands, il y aurait à peu près 3 millions d'emplois en plus, hein, c'est ça, hein. 3 millions d'emplois en plus, ça fait à peu près 10% de PIB. Le PIB de la France, c'est 2900 milliards. 10% de 2900, ça fait 290 milliards. 280 milliards, le taux de pression fiscale, c'est quoi? 48%? Ça ferait 140 milliards de recettes fiscales. Vous avez un déficit primaire de 120 milliards. Vous auriez
mais
même un excédent. Bah oui, mais ça veut dire qu'il faut faire des réformes structurelles dont on ne parle jamais. Alors, on parle du côté retraite. Il y a aussi le problème de l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Pourquoi, finalement, collectivement, il n'y a pas assez de production? Parce qu'on entre assez tard sur le marché du travail.
Mais il n'y a plus de jeunes.
On sera
assez tôt. Vous l'avez dit dans le sommaire, c'est fini. Il y a
plus
des vieux.
Oui. Alors que le Conseil d'analyse économique a remis, je lisais la tribune de Xavier Jaravel hier dans les Échos, a expliqué qu'on a un énorme problème avec l'éducation. Alors, je dis pas qu'il faut pas débattre entre nous, hein, c'est important, TVA, alors est-ce qu'on augmente la CSG de 8,3 à 9,2? Tout ça, c'est très bien, il faut le faire. Mais c'est pas avec ça que vous allez revenir,
Denis,
dans les clous.
On règle le problème,
ouais.
On travaille plus et...
Oui, en fait, il faut toujours se retourner vers les laboratoires et il y a un laboratoire qui est exceptionnel pour comprendre ce qui se passe quand une économie vieillit, c'est le Japon. Et le Japon, bien, on sait, il a exporté du capital. Oui. Enfin, Jean-Marc Daniel Daniel le répète à satiété sur ce plateau, il a raison.
Vous le récitez par cœur, si vous voulez.
Mais également, ce qui est très important, c'est de regarder le taux d'emploi, et en particulier le taux d'emploi féminin. C'est au Japon qu'il est le plus élevé, alors que pendant très longtemps, on avait la représentation d'une économie qui emploie très peu les femmes. Et donc, en fait, ils ont affronté à bras le corps cet objectif, cet enjeu de faire face au vieillissement, notamment en mobilisant plus la population qui est en emploi.
Isabelle,
je crois que les deux solutions ne sont pas du tout mutuellement exclusives. Et en fait, l'ampleur du défi est telle qu'il faut effectivement, je pense qu'il y a un vrai effort à faire sur les dépenses. Et quand on parle de faire un effort sur les dépenses, il ne s'agit pas de réduire les dépenses, il s'agit de les réduire en pourcentage du PIB. Donc il suffit juste qu'elles augmentent moins rapidement que la croissance. Donc c'est pas aussi alarmant que ça peut en avoir. Et je pense que si, les Français aiment la dépense publique, en partie parce qu'il n'y a pas assez de signal prix. Mais si vous me dites qu'à 57% du PIB, on peut pas faire d'efforts supplémentaires, moi j'ai du mal à y croire. D'autant plus qu'il faut pas oublier, mais d'après même les prévisions du ministère des Finances, la charge d'intérêt de la dette va s'alourdir structurellement du fait du profil de maturité, même si on n'a pas de scénario très pessimiste sur l'évolution des taux. On est juste au-dessus de 2% du PIB de charge d'intérêt de la dette. Ça devrait passer jusqu'à 3,5-3,6% à l'horizon 2029. Donc ça, il faut trouver des économies à mettre en face de ça. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a un petit sujet défense nationale, où, comme vous le savez, il y a une pression très très forte des États-Unis de s'engager à 5%, à passer les dépenses de défense à 5% du PIB, alors qu'on est pour l'instant sur une trajectoire à 3%. Et donc, il y a un effort très important à faire, et je suis absolument d'accord avec Emmanuel. Il va falloir aussi trouver des moyens d'augmenter le potentiel de
donc on va devoir faire les deux, baisser les dépenses et augmenter les recettes.
C'est pas le même horizon temporel. C'est pas le même. Tout le débat budgétaire, recettes, dépenses, c'est, on va dire, du court terme. Là, on parle de réformes structurelles. Les effets sur le taux d'emploi, c'est dans 4 ans, 5 ans, mais on n'en parle jamais. Or, les solutions, en plus, on les connaît. Et les Français, ils peuvent l'entendre. On en parle souvent avec Denis. Un exemple très concret, il y a des femmes qui disent vouloir travailler plus, et elles ne le peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de solution de garderie. Donc, c'est du temps partiel contraint. Il y a des personnes, je crois que c'est 2 millions de personnes qui sont des aidants, qui aident un parent âgé, un handicapé. S'il y avait vous voyez, des choses très concrètes. Il y a des jeunes qui ne prennent pas d'emploi, c'est un de mes dadas, parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Parce qu'en
vous
France,
allez
c'est
lancer une baisse des dépenses et une réforme des retraites en même temps, histoire d'avoir les deux horizons.
C'est pas que la réforme des retraites.
Vous n'avez pas été élu, sachez-le.
Pas que les retraites.
À force de procrastiner, il faut tout faire en même temps aussi. C'est un peu ça le problème, c'est qu'effectivement tous les enjeux viennent en même temps. Et peut-être j'ajoute un point sur la défense. Il y a une étude intéressante qui a été faite par l'Institut de Kiel récemment, qui a regardé sur les 100 dernières années qu'est-ce qui se passe quand on doit augmenter les dépenses de défense. Et donc ils ont pris, il y a une cinquantaine d'exemples de pays qui ont dû augmenter les dépenses de défense. Bien, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que en même temps, ils ont augmenté les dépenses autres que celles liées à la défense. Donc il faut faire attention à l'idée que la dépense de défense va se substituer à la dépense sociale. L'histoire montre qu'en réalité, les deux sont allés de concert. D'où l'urgence vraiment de créer les éléments qui viennent la contenir.
Isabelle, je reviens à votre tournée en Asie, parce que la semaine dernière, notamment avec les économistes qui faisaient les experts, on parlait de la possibilité d'un accident de crédit de la France. Est-ce que vous sentez une crainte sur la dette française? Est-ce que vous voyez le taux qui pourrait augmenter, notamment si l'Allemagne se met à émettre beaucoup de dettes avec une sorte de compétition entre nos deux pays qui aujourd'hui n'existent quasiment pas parce qu'il n'y a pas assez de dette allemande?
Non, effectivement, pour l'instant, ce qu'on a vu et les évolutions de taux de marché le montrent très clairement. Le spread entre les taux français et les taux allemands a plutôt eu tendance à se stabiliser, voire même à se réduire. Donc il y a pour l'instant un effet d'entraînement, je dirais, positif, où les investisseurs se disent finalement ce surcroît de dépenses publiques en Allemagne va bénéficier à la croissance non seulement de l'Allemagne mais aussi de ses voisins. Donc on en bénéficie. Mais c'est un sujet d'inquiétude, et je pense que si à l'approche du vrai débat budgétaire, on ne voit pas de piste de solution, et que par ailleurs les investisseurs étrangers restent assez inquiets de ce qu'ils perçoivent comme une situation politique très instable, sans doute de manière exagérée, mais toujours est-il que c'est ça la perception, les marchés regardent de près. Donc je pense qu'il faut avancer de manière résolue sur ce terrain-là.
Isabelle, la TVA sociale, vous êtes contre, j'ai bien compris. Emmanuel?
Même chose. Enfin, quand on regarde les simulations macro et la DG Trésor en affaires, on voit que l'effet net est pas extraordinaire. Vous aurez un effet pouvoir d'achat. Il y a toujours le risque aussi qu'on ait une course des salaires, hein. C'est-à-dire en réalité que comme les prix augmentent, vous avez une boucle prix-salaire. Quand on fait un bouclage macro, à nouveau, c'est pas la solution alpha-méga.
À la fin, on a juste augmenté les prix, quoi.
Non, on a un effet, je crois qu'il y a un effet qui est marginal, mais je veux dire, c'est pas avec ça qu'on résout le problème. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, pour revenir à votre question tout à l'heure, c'est, je le répète, je dis pas qu'il faut pas avoir, il faut envoyer des signaux. De toute façon, au marché, c'est super important, les signaux. Il faut montrer qu'on bouge. Donc, sur les recettes, sur les dépenses. Mais c'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème. Il y a trois sujets. Il y a recettes, dépenses, éducation. J'entends rien là-dessus. On a quand même des NITS hein, en France, hein, des personnes qui sont sans emploi, sans formation. Le sujet de la productivité. Alors, c'est sûr que les gains de productivité, je crois, repartent en France.
Hein, l'éducation est le premier sujet économique.
Mais c'est les vrais sujets. Et ce sujet, on l'a pas. On va vous dire, mais quelle est la relation entre le déficit budgétaire et l'éducation? Bah, c'est le sujet. Ça et les gains de productivité, vous résolvez vos deux problèmes. C'est pas moi qui le dis, enfin, c'est tous les économistes.
Denis.
Oui, sur la TVA sociale, il y a des effets à court terme qui sont quand même plutôt défavorables et il faut attendre quand même quelques années avant de voir des manifestations, des effets. Mais on est déjà dans une situation où on a des niveaux d'allègement qui sont très élevés, où on a une pente des allègements qui est très forte et qui incite à la création d'emplois faiblement qualifiés. Et donc, la TVA sociale, elle doit aussi s'envisager au regard de la correction des déséquilibres que l'on a introduit, qui en réalité vient pénaliser l'emploi qualifié. Espérer un retour de productivité alors que l'on fait tout pour dissuader l'emploi qualifié relativement à l'emploi non qualifié, c'est quand même une quête assez vaine.
Sur la question de l'année blanche, Isabelle Matteo Silago, là, est-ce que, puisqu'on n'arrive pas à mettre en place des baisses de dépenses, est-ce que ça, au moins, c'est un moindre mal? On stoppe tout, on gèle, et puis...
Je crois que la question du gel est effectivement une piste à explorer. La France a tout indexé sur l'inflation depuis la pandémie, et donc est l'un des rares pays qui n'a pas bénéficié en termes de réduction de sa dette publique ou de son déficit public de la poussée d'inflation. À certains égards, on a même surindexé certaines prestations sociales. Donc oui, c'est une piste à regarder absolument.
Manuel. Vous allez me redire que le problème, c'est l'éducation.
Non. Il y a des choses à faire. Par exemple, pour la CSG, moi, je suis choqué. Les dépenses sociales, ça profite à tout le monde, hein, pas seulement à ceux qui travaillent. Ça profite aussi aux retraités. Alors, on va y venir tout à l'heure. La France est un pays de retraités et de rentiers. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Fouché. Mais c'est pas normal que le taux de CSG soit réduit. Enfin, au nom de quoi? Donc là, il y a peut-être une piste. Alors, je sais pas combien ça rapporterait de passer la CSG de 8 à 9,2%. Ça, c'est un truc classique d'injustice sociale. Et je pense que les Français peuvent l'entendre, en tout cas, peut-être pas politiquement, puisque majoritairement,
ce sont les
retraités qui votent. Mais en tout cas, la population, parce que les jeunes existent, hein, même s'ils ne votent pas, ils existent. Leur expliquer que tout le monde profite de la protection sociale, et notamment les plus âgés, il n'y a pas de raison intellectuelle, philosophique, pour qu'ils payent une CSG plus faible, notamment, on est bien d'accord, une CSG à partir d'un certain niveau de retraite. Hein, je crois que ça toucherait 5 millions de retraités. Donc, on ne parle pas de faire payer le retraité qui a une toute petite retraite. Mais vous voyez, ça, c'est une piste quand même assez simple, qui est, assez, me semble-t-il, assez audible. Mais je le répète, ce n'est pas avec ça que vous allez réduire significativement votre problème.
On reviendra au sujet de l'éducation. Denis.
Oui, sur l'année blanche, en fait, le signal que cela envoie, je trouve, c'est que c'est un non-choix, d'une certaine manière. Et en réalité, on l'a évoqué au moment des niches fiscales, c'est parce qu'on ne choisit pas véritablement l'espace d'intervention de l'État. Les niches fiscales, là encore, il faut toujours le redire, viennent corriger toujours un déséquilibre qui a été introduit par ailleurs par une surintervention, par une surfiscalisation. Et donc, on ne résout pas le problème avec le gel, parce qu'en gros, on fige la situation et on n'ajuste pas le niveau de dépenses, en particulier les collectivités locales dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. On ne réfléchit pas à l'organisation de l'État, l'administration et au périmètre d'intervention. Et
attention, Laure, toute Manuel. Dépense n'est pas une dépense de conso, ça peut être une dépense d'investissement. Enfin, toutes les dépenses publiques ne se valent pas. Une dépense dans l'enseignement supérieur coupée. Enfin, je crois qu'il y a eu des coupes hein, sur l'enseignement supérieur. Et je dis pas ça parce que je suis professeur d'université. A priori, quand on regarde les études économiques, l'investissement en R&D en recherche, ça a quand même un impact à long terme sur la croissance. Donc, toute dépense, l'idée de geler tout de manière uniforme, c'est de finalement laisser croire que 1 euro de dépense.
Tout est pareil.
Bah oui,
c'est le non-choix.
Toute dépense publique n'est pas illégitime, au-delà des dépenses régaliennes.
Mais si on ne peut rien faire, si on ne peut rien voter à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Isabelle?
Non, mais c'est exactement ça le sujet. C'est pas un first best, je dirais. Mais si on ne fait rien, le déficit retourne sur un niveau de 6%. Et là, on va se faire punir par les marchés. C'est très clair. Et là, on entre dans une dynamique très, très néfaste. Donc, si les équilibres politiques ne permettent pas de faire des choix, bah, il faudra quand même prendre des mesures. Et bon, voilà, ça peut en être une qui limite les dégâts.
D'autant que le contexte a quand même bien changé sur les marchés financiers. Enfin, quand vous voyez des taux japonais qui tangentent les 3%, c'est de l'inédit sur 30 ans. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Les alertes de Jamie Dimon récemment sur la dette américaine. Donc, on voit bien que Ok, le spread s'est peut-être resserré un petit peu tout dernièrement avec l'Allemagne, mais les inquiétudes ne font aller que crescendo d'une manière générale sur l'ensemble des titres obligataires, pas seulement sur la dette française, absolument, mais progressivement, c'est chacun, ceux qui seront les plus fragiles, qui seront les plus exposés.
Avec la crainte, à un moment, Isabelle, qu'il y ait trop de dettes sur le marché, globalement, on a vu une adjudication américaine qui ne s'est pas très bien passée il y a 10 jours. Est-ce qu'à un moment donné, il y a trop de choses à financer? On parlait de l'armement, il y a le déficit américain. Est-ce qu'à un moment donné, le marché ne peut plus absorber?
Le marché peut toujours absorber. La question, c'est à quel prix? Et il est clair qu'il y a eu des émissions qui se sont mal passées aux États-Unis, au Japon. Mmh. Et donc, oui, il y a eu des mouvements de taux assez violents, en partie sur la partie la plus longue de la courbe, où il y a des questions de déséquilibre entre l'offre et la demande. Et oui, je pense qu'il faut tous se préparer à un scénario dans lequel les taux à long terme, en particulier, augmentent parce que il y a beaucoup d'émissions de dette et puis, moins d'appétence des marchés pour l'absorber. Mmh.
Vous ne bougez pas, vous gardez tout ce que vous avez envie de me dire. On marque une pause, on revient dans un instant, les experts.
Débat et controverse sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
Les experts jusqu'à 10h en direct sur BFM Business. On est avec Isabelle Matteo-Silago, directrice des études économiques de BNP Paribas. On est avec Emmanuel Combes. On est avec, vous êtes senior advisor chez Image7. Je redis pas tout, Emmanuel, mais les gens savent qui vous êtes, vous inquiétez pas. Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. On va parler des États-Unis et de la guerre commerciale. C'est demain que vont normalement être mis en vigueur les taxes sur l'acier et l'aluminium à 50%, donc qui seraient doublées. Il peut encore y avoir un revirement parce qu'on attend des discussions avec Xi Jinping dans la semaine. Est-ce qu'il y a un bienfait sur l'économie américaine, Emmanuel?
La réponse est clairement non. C'est du populisme. On a déjà eu Trump 1, donc on peut quand même regarder ce qui s'est passé sous Trump 1, donc 2018, si je ne dis pas de bêtises, 2021. L'idée, en fait, il est quand même constant. Il est quand même constant dans son erreur. Sa grande idée, c'est de dire je veux sauver de l'emploi industriel ouvrier. Ce qui est noble. Hein, j'ai rien contre cette idée-là. Hein. Mais le moyen qu'il emploie pour faire cela, c'est-à-dire les droits de douane, c'est pas la bonne solution. Alors pourquoi c'est pas la bonne solution? Vraiment en deux secondes. Quand vous mettez en place des droits de douane, qui paye en réalité l'acier plus cher? C'est pas le Chinois qui va exporter. C'est pas le Mexicain qui va exporter. C'est pas le Canadien. C'est les principaux exportateurs. C'est en fait les industriels américains qui vont payer la facture. Quand vous regardez les études statistiques, les exportateurs reportent la taxe dans le prix final, ce qu'on appelle le pass-through, à 100%. Donc si je mets 50% de taxe sur l'acier, de toute façon, l'acier sera plus cher aux États-Unis. Ça, c'est le côté pouvoir d'achat. Et ça va pénaliser qui? Ça va pénaliser les industriels. Car qui utilise l'acier, c'est pas vous et moi, c'est General Motors, Ford, etc. Donc il y a un coût en termes de prix. Alors vous allez me dire, oui, mais en face, j'ai sauvé des emplois. Très bien. Alors, on va regarder. L'économie, c'est un truc de pragmatique. On va regarder combien d'emplois a sauvé Trump 1, quand il a mis des droits de douane contre la Chine sur l'acier. De mémoire, il a sauvé à peu près 8700 emplois. C'est pas moi qui le dis, c'est le Peterson Institute. Alors, on peut débattre à la marge. Peu importe, 8700, 900. Ça a coûté aux Américains chaque année en surpris 11 milliards de dollars. Donc, vous faites, pas besoin d'être un grand économiste, vous faites 11 milliards divisé par 8700 emplois sauvés. Ça vous donne quoi? Combien ça me coûte chaque année en pouvoir d'achat de sauver un emploi? À peu près 900 000 dollars.
Ce qui est colossal.
Soyons cyniques. Et pardon, je vais choquer les auditeurs, mais ce n'est pas moi qui suis cynique, c'est la politique. Ça revient à dire que chaque année, vous faites payer aux consommateurs, aux contribuables américains, 900 000 dollars pour sauver un emploi. Soyons cyniques. Ça veut dire que si cette personne n'avait pas été protégée, elle aurait été au chômage. On aurait pu lui donner la même somme. À titre personnel, je veux bien émigrer aux États-Unis et subir l'infamie d'être chômeur et de toucher 900 000 dollars par an d'indemnité. C'est pas sérieux.
C'est-à-dire que ça sert à rien, quoi.
Non, il y a d'autres moyens moins coûteux pour préserver de l'emploi industriel que de recourir aux droits de douane. Et si vous voulez, ce débat-là, les économistes le connaissent par cœur. Je veux dire, les études, elles sont à profusion. Il y a une étude de la Réserve fédérale.
Mais c'est de la politique, c'est pas de l'économie.
Oui, mais au bout d'un moment, vous savez, entre la politique et l'économie gagne toujours à la fin. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a la vérité des chiffres. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça coûte très, très cher. Oui, il va sauver de l'emploi, mais pour un coût très élevé pour l'économie américaine. Et regardez, on peut même aller plus loin. Des études de la Réserve fédérale qui vous disent qu'en réalité, Trump 1, avec son protectionnisme, a détruit de l'emploi. Pourquoi? Car vous avez sauvé de l'emploi dans l'acier, mais vous en avez détruit dans l'automobile. Parce que les voitures étant plus chères, vous licenciez. Et puis, il y a eu des représailles. La Chine ne s'est pas laissée faire. Elle a mis des droits de douane sur Boeing. Donc, Boeing a vendu moins d'avions. Bilan, selon la Réserve fédérale, le protectionnisme de Trump a fait baisser l'emploi de moins.
Mais vous ne trouverez pas un économiste pour vous défendre le protectionnisme, ou alors, enfin,
bah si, hein. Ah bon, Navarro.
Si,
oui, non, mais d'accord. Mais moi, sur ce plateau, je vais pas croiser. Hein.
Alors, on peut dans des cas du protectionnisme chirurgical. Temporaire, notamment, on va pas faire un cours ici, mais pour ce qu'on appelle l'industrie naissante, je suis en retard, temporairement, je me protège, mais pas le protectionnisme. L'argument qui consiste à dire je sauve de l'emploi en me protégeant, il est intellectuellement erroné. Oui, je le sauve. La question n'est pas de savoir si vous sauvez de l'emploi, c'est à quel coût pour la collectivité.
Mais si j'ai bien compris quand même, Isabelle, l'objectif c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État américain. Il y a un objectif budgétaire pour financer après, notamment des baisses d'impôts. Non, j'ai mal compris.
Si, ça marchera pas.
Non, mais ça marchera pas, d'accord, mais c'est le but affiché. Il n'y a pas que sauver l'emploi, il y a aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses.
Il y a effectivement trois buts affichés. Faire rentrer des ressources dans les caisses de l'État, très important pour financer les baisses d'impôts que Trump a promises par ailleurs. Sauver de l'emploi ou réindustrialiser l'Amérique, pour le dire de manière encore plus ambitieuse, et assurer la souveraineté économique. Donc tout ça est très problématique, je vais y revenir, mais je dirais on est dans un scénario qui est bien pire que Trump 1, parce que au-delà des tarifs, ce à quoi on a affaire, c'est un choc d'incertitude colossal, parce que les tarifs, ils changent pratiquement tous les jours. Et donc, si vous êtes un industriel américain, ou si vous êtes un industriel de n'importe où qui se demande s'il faut renforcer ses capacités de production aux États-Unis ou ailleurs, tout le monde est dans l'incertitude la plus complète. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et ça affecte toute l'économie dans son ensemble. C'est pas seulement l'acier qui est pénalisé ou les automobiles. Non, c'est l'intégralité de l'économie. Donc c'est très très dangereux. Et on n'avait pas du tout eu cette configuration-là en 2018 lors du premier mandat de Trump. Alors après, vous avez raison. Il y a un objectif important qui est de faire rentrer des revenus. Sur les niveaux de tarifs actuels, on est entre 2 et 3 1000 milliards à l'horizon de 10 ans. Ça compense à peu près l'ampleur, enfin le coût des baisses d'impôts qui sont dans le budget actuel. Seulement voilà, faudrait-il que les volumes d'importation se maintiennent, et naturellement, et d'ailleurs, l'un des objectifs, c'est de réduire les importations. Donc, tout ça, oui. Finalement...
Réduisez les importations, vous rentrez moins d'argent dans les caisses.
Bah, exactement. Donc, c'est très problématique. Enfin, c'est du populisme. On en revient à la conclusion d'Emmanuel. C'est, d'un point de vue purement économique, ça n'a pas de sens.
C'est inefficient. Denis.
Oui, c'est inefficient sur la croissance. Alors, il faut faire attention parce que les chiffres de la croissance en ce moment sont extrêmement perturbés par une chose qui est très simple, c'est que au premier trimestre, vous avez eu anticipation de hausse de droits de douane et donc accélération des importations, on fait des stocks, et donc ça vous a fait une croissance qui a été plombée par le rythme des importations qui a été très élevé, et les importations seront moins fortes au deuxième trimestre, et donc ce faisant, vous aurez plus de PIB. Donc l'un dans l'autre, on ne sait pas bien où se trouve la croissance. En revanche, c'est le choc d'incertitude qu'évoque Isabelle, qui est tout à fait fondamental. Quand vous regardez les déclarations d'intention des chefs d'entreprise américains sur leurs objectifs d'investissement, ils sont en train de battre en retraite de manière extrêmement forte. Et ce faisant, c'est en réalité l'objectif fondamental qu'il y a derrière les droits de douane, c'est la stratégie de relocalisation. C'est la poursuite, en fait, avec d'autres moyens de la politique qui a été installée par Biden, avec l'IRA, avec le CHIPS Act, qui avait déjà été installé par Obama. C'est la philosophie, c'est refaire venir de l'investissement étranger sur mon territoire.
L'IRA, ça a bien marché quand même. Hein.
L'IRA, ça a bien marché.
Oui, c'est plus subtil, d'accord, mais en termes d'aspiration à investissement, ça...
Non, mais quand je dis c'est plus subtil, c'est moins distorsif, pour parler comme un économiste. Une subvention,
distorsif.
C'est-à-dire qu'en fait, quand vous subventionnez la production... c'est un peu technique le truc. C'est moins grave, c'est moins attentatoire à l'efficacité économique qu'un droit de douane. Parce qu'un droit de douane, vous pénalisez aussi la consommation. Là, ce qu'a fait Biden, c'est de la subvention à la production. En matière protectionniste, tout protectionniste n'est pas équivalent. Le pire instrument protectionniste, c'est le droit de douane et le quota. Non, le pire, c'est le quota. Ensuite, il y a le droit de douane.
Mais le pire quoi? Le pire en termes de politesse,
sur ses effets.
Ah oui.
Sur ses effets négatifs. Partons du principe que le protectionnisme est quasiment toujours négatif. Il y a des exceptions. Mais dans le négatif, il y a une hiérarchie. Le pire, c'est le quota. Après, il y a le droit de douane et la subvention à la production, c'est assez malin parce que finalement, en réalité, vous n'avez pas de distorsion à la consommation. Le prix ne bouge pas pour le consommateur. Alors certes, il va payer plus d'impôts parce qu'il faut payer ses subventions à la production. Mais ce qu'a fait Biden, pour moi, c'est pas équivalent exactement à ce qu'a fait Trump. Trump, il vous dit, puis en plus, il relocalise pas. Il vous dit, je mets de droits de douane en espérant que vous relocalisiez. C'est pas tout à fait la même chose. Et comme le disait Isabelle, si j'ai de l'incertitude, une décision de relocalisation, c'est pas quelque chose de réversible. Vous n'allez pas vous dire, tiens, il a décidé cette semaine de mettre 50%, je vais installer une usine aux États-Unis. Vous dites plutôt, j'attends. Je sais pas de quoi demain est fait. Donc je trouve que l'incertitude, plus le fait que c'est pas une politique directe, il dit pas relocalisez-vous, il dit je vous taxe, venez produire aux États-Unis
et vous prends un rabais.
Ce qui est pas la même chose que Biden qui est de dire venez aux États-Unis et vous aurez une subvention.
Non, et j'allais dire, d'un point de vue européen, c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer parce que les subventions au titre de l'IRA avaient été très critiquées en Europe en disant ben non, toutes nos entreprises maintenant veulent aller investir aux États-Unis, les États-Unis ont cette politique merveilleuse qui a un effet d'attractivité énorme, il faut faire pareil alors qu'en Europe, on a toujours une approche plutôt bâton que carotte et là, c'est l'inverse. Ces actes d'autodestruction économique finalement que Trump est en train de déployer, ça renforce l'attractivité de l'Europe. Donc il faut s'en réjouir d'un point de vue européen.
C'est-à-dire qu'à la fin, on va pas faire quand on va décompter, on va s'apercevoir qu'en fait il y a pas mal de boîtes qui sont parties quand même. C'est-à-dire que vraiment ça renforce la compétitivité européenne et notre
Je peux vous dire que les investisseurs du monde entier sont en train de regarder d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Europe et se disent finalement l'exceptionnalisme américain risque d'être sérieusement amoché et c'est un moment d'opportunité pour l'Europe cette perception est vraiment très largement répandue et des investisseurs du monde entier regardent l'Europe alors qu'ils avaient complètement oublié de regarder l'Europe depuis 5 ou 10 ans.
C'est pas juste parce que c'est moins cher.
Non, c'est
en termes de valorisation,
c'est pas juste parce que c'est moins cher. C'est parce qu'il y a des plans d'investissement, c'est parce qu'il y a la mise en œuvre du rapport Draghi, il y a l'effort de défense, et puis il y a cette perception qu'en Europe, on a des processus de politique économique qui sont stables, qui sont plus ou moins prévisibles, qui sont peut-être un peu plan-plan, mais par rapport au chaos que l'on constate à la Maison Blanche sur une base quotidienne, finalement, le côté un peu plan-plan de l'Europe, c'est pas si mal.
Isabelle, c'est super important. À la fin des fins, la croissance économique, c'est quand même des anticipations, c'est de la stabilité, c'est de l'état de droit. Et aux États-Unis, on a quand même l'impression, alors il vient de se faire remettre un petit peu d'équerre, notamment par les juges, mais l'état de droit, c'est le truc fondamental pour un businessman. Il y a des règles. Alors on dit souvent l'Europe a trop de règles. On pourra en discuter d'ailleurs un jour, je pense que c'est largement exagéré. Toute règle n'est pas mauvaise. C'est bien qu'il y ait des règles de concurrence, par exemple. Mais avoir des règles, c'est aussi dire qu'en Europe, il y a un process. Comme le dit Isabelle, c'est prévisible. La prévisibilité, c'est la première source de croissance économique. Quand vous regardez les études sur le long terme, ce qu'on appelle les institutions économiques, c'est quoi? C'est l'état de droit. Et en fait, je trouve que Trump, il porte un peu atteinte à l'état de droit. Alors, il n'y arrive pas. Mais quand il dit la Fed, Powell est, je ne sais pas quoi, un imbécile, il porte atteinte à un truc qui s'appelle l'indépendance de la Banque centrale.
L'indépendance fait mal à la croissance.
Mais c'est un pilier énorme. Mettez-vous à la place d'un investisseur. C'est-à-dire que s'il réussit à porter atteinte, ce qu'il n'a pas réussi à faire, s'il réussit à porter demain atteinte à l'indépendance de la Banque centrale, les anticipations d'inflation vont être revus à la hausse. Donc tout ça, c'est super important. Ce que dit Isabelle, c'est capital. La croissance à la fin des fins, c'est de la confiance. Et la confiance, elle repose sur des règles stables.
Et on en discute aussi beaucoup dans la politique monétaire sur la parole performative, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je prends la parole, patron de banque centrale, et ça suffit pour ancrer les anticipations. Là, on est quand même plutôt sur la parole contre-productive, en réalité.
Quoi. Ça marche, ça sauve l'eau.
Oui, tout à fait. Et ça suffit. Et vous n'avez pas déboursé un centime. Mais la parole a été performative. Et c'est tout à fait fondamental. Là, on est sur la parole contre-productive, en réalité. Avec notamment une dimension que l'on a abordée tout à l'heure, qui est celle des taux d'intérêt. Quand vous commencez à dire que vous laissez passer la petite musique ou les charges d'intérêt, enfin les intérêts qui seraient versés ne seraient pas, pourraient être taxés dès lors qu'ils sortent, la rémunération sort des États-Unis.
Ça fait mal, oui.
En termes d'attractivité pour vos placements, vous comprenez que d'un seul coup, vos adjudications, peut-être qu'elles peuvent être un petit peu plus difficiles. Donc, il faut faire très attention, effectivement, à cette parole, à la façon dont on l'emploie. Effectivement, l'expression plan-plan par rapport à l'hyperactivisme, c'est peut-être ça a quand même quelques vertus. Maintenant, regardons bien qu'est-ce que vont faire les entreprises, qu'est-ce qui va s'ancrer encore de plus en plus, ce qui était déjà une tendance de fond, c'est que les entreprises elles vont faire de la polylocalisation. C'est-à-dire, je vais me développer en Europe pour servir le marché européen, je vais me développer aux États-Unis pour servir le marché américain.
Mais ce qui n'est pas plus mal pour l'emploi, notamment. notamment.
Ce qui n'est pas plus mal pour l'emploi. Et de ce point de vue, là où il y a un retard d'investissement, c'est quand même plutôt en Europe. Et donc, oui, c'est a priori plutôt une bonne nouvelle.
Je reviens, Isabelle, aux États-Unis avec cette phrase notamment de JP Morgan, on en a parlé tout à l'heure, qui redoute une crise du marché de la dette américaine. Il parle notamment de l'euro, du dollar qui serait trop faible et ça serait un véritable problème. Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment, on parlait de confiance, d'inquiétude sur la dette américaine? Parce que là, c'est systémique et le mot est faible.
Alors, c'est absolument systémique. Je crois que ce que Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, cherche à faire, c'est à attirer l'attention des membres du Congrès américain sur le fait que la question de la soutenabilité de la dette, c'est un vrai sujet et qu'on ne peut pas se permettre de voter un budget basé sur des hypothèses fantaisistes et qui va maintenir un déficit public entre 6 et 7% du PIB à l'horizon des 10 prochaines années, même en l'absence de récession et avec une dette publique qui dans cette hypothèse augmenterait de 25 points de PIB en l'espace de 10 ans. C'est une situation dangereuse. Les représentants au Congrès, enfin les représentants et les sénateurs jouent avec le feu et je pense que Jamie Dimon a absolument raison de même s'il est un petit peu alarmiste, je pense qu'on n'est pas à la veille d'une crise majeure, mais on est dans une situation quand même à haut risque effectivement parce que à cette situation budgétaire peu attrayante s'ajoutent des initiatives extrêmement, je pense, néfastes à l'attractivité, effectivement, de la dette américaine, comme ce qu'évoquait Denis à l'instant. Il y a une clause dans le budget qui est en ce moment en débat au Sénat qui prévoit la possibilité pour l'administration américaine de taxer les détenteurs de titres étrangers.
De 5 à 20%.
De 5 à 20% s'ils estiment que ces pays pratiquent des taxes injustes. Et donc, par exemple, la taxe digitale qui existe dans certains pays de l'Union européenne. Voilà, ça serait un motif pour l'administration de décider, voilà, maintenant, vous tous ce qui détenait des bons du trésor américain, on va vous taxer. Donc ça, c'est un repoussoir phénoménal. Et les étrangers, les non-résidents détiennent près de 30% de la dette souveraine américaine. Je pense qu'il faut que les États-Unis fassent attention à ne pas les décourager trop.
On parlait des règles européennes, Emmanuel Combe, notamment sur les GAFA. Là, on a notre DSA, notre DMA. On ne sait pas si ça nous protège, si c'est une bonne chose ou pas. En tout cas, les États-Unis, Donald Trump, ça le rend fou.
Ça le rend fou. Et du coup, je fais un aparté très rapide. Vous le savez, moi, depuis le début, je pense que l'Europe doit, dans la négociation, puisque les droits de douane sont suspendus jusqu'au 9 juillet, je crois, dans la négociation, expliquer à Donald Trump que puisque nous avons il veut lutter contre les déficits. Hein, c'est ce qu'il nous a dit, les déficits commerciaux. Hein. Mais nous, on a un déficit commercial, en fait, avec les États-Unis dans les services. Hein, donc, voilà. Donc, nous, on va se protéger. Hein. On va se protéger. Et là, on a un instrument qui s'appelle l'instrument, on en a déjà parlé sur ce plateau, anti-coercition. Là, on est victime de coercition. Qu'est-ce que c'est que la coercition? C'est le président des États-Unis qui vous dit « je vais vous taxer parce que je n'accepte pas un certain nombre de vos lois ». Mais les lois ont été votées par l'Europe. Hein, le Digital Market Act, c'est nos valeurs. Alors, on peut ne pas les partager, mais c'est nos valeurs. La protection de la vie privée, etc. Et moi, je trouve que ça serait intéressant, et j'espère que l'Europe va le faire, dans la discussion avec Trump. De toute façon, il faut être fort dans la discussion avec Trump. Hein. Les faibles, en général, ils les écrasent assez vite. Lui dire, écoutez, si vraiment vous voulez la guerre, nous, on a un instrument qui s'appelle l'anti-coercition. L'anti-coercition peut taxer potentiellement toute activité, de quelque manière que ce soit. Pas seulement des droits de douane, ça peut être également des restrictions à l'accès au marché européen. On a un instrument relativement fort pour défendre nos valeurs. Parce qu'en réalité, c'est de la coercition. Enfin, un pays qui vous dit, il faut que tu changes tes lois, sinon, comme le disait Isabelle, je te taxe, ça s'appelle de la coercition.
Mais ça veut dire concrètement qu'on pourrait attaquer Mastercard, Visa
Tout. Ça peut être aussi les GAFAM, ouais. Augmenter des taxes. Je ne dis pas qu'on le fera, mais c'est une arme nucléaire dont l'Europe dispose. Et moi, je trouve que dans la négociation, ça avait été mis dans la négo à un moment donné. Hein. Puis là, on a fait un petit peu marche arrière. Moi, je trouve que dire aux Américains, puisque vous expliquez que nous devons lutter contre, en effet, des déficits commerciaux, nous avons un déficit commercial, je crois, de 100 milliards avec les États-Unis dans les services, eh bien, nous allons également nous protéger. On va utiliser différents instruments.
Plus de paiement que
dont l'anti-coercition. Je ne souhaite pas que ça arrive, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même des arguments dans la négociation avec Trump.
Denis ?
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance de montrer l'Amérique aussi plus belle qu'elle ne l'est. C'est vrai que le pays de la croissance, le pays de l'aspiration, le pays où on se révèle, ça reste les États-Unis, mais ça le reste à quel prix ? Ça le reste au prix d'un pays qui a vécu au-dessus de ses moyens très longuement. Et quand vous accumulez du déficit extérieur, ce qui est l'autre manière de dire que je vis au-dessus de mes moyens, eh bien, petit à petit, vous devenez de plus en plus détenu que vous n'êtes détenteur. Et ce qui s'est passé depuis Trump 1, c'est que l'on a vu la position extérieure nette américaine, donc l'écart entre les actifs que détiennent les Américains vers moins les passifs qu'ils ont vis-à-vis de l'étranger, est passé de 40 à 80 points de PIB. Il y a une accélération dans cette détention par l'extérieur de l'économie américaine, qui est une forme d'extraversion, une forme de perte de maîtrise de la part de l'économie américaine et qui est probablement l'un des leviers les plus importants sur lesquels l'Europe peut actionner.
Isabelle.
Je voulais juste rajouter un mot sur l'outil anti-coercition. C'est un outil dont l'Europe s'est dotée initialement pour être en mesure de faire face à des pressions de la Chine. Telles que celles qui avaient été exercées sur les Pays-Bas. C'est quand même extraordinaire qu'on en soit arrivé à se dire voilà un outil qu'on pourrait déployer face aux États-Unis. Le monde a beaucoup changé.
Bon, puisqu'on parle de concurrence, on finit avec ce sujet sur les cartels dans la livraison de repas. Une entente originale, Bruxelles qui inflige 329 millions d'euros d'amende à Deliveroo et à Glovo. Emmanuel Combes, ça c'est votre sujet par prédilection. Une entente sur les talents, c'est une première européenne.
Oui, c'est la première fois en Europe. Alors, une entente pour nos auditeurs, hein, c'est le fait de se concerter notamment entre des concurrents pour fixer des prix, etc. Et là, en réalité, ils se sont entendus pour plusieurs raisons, pour des choses très, très classiques, du style on se répartit les marchés géographiques. Ça, c'est pas très original. Non, ce qui est très original, c'est que pour la première fois, la Commission sanctionne, en effet, une entente par laquelle Deliveroo et Glovo, donc qui sont deux plateformes de livraison de repas à domicile, se sont entendus pour ne pas se débaucher leur main-d'œuvre, ce qu'on appelle des no-poach agreements. Alors pourquoi c'est une entente anticoncurrentielle? Parce que s'il n'y avait pas eu cette entente, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, ils se seraient pris mutuellement leurs travailleurs. Et on parle de quels travailleurs? Les travailleurs les plus qualifiés.
Mais on ne parle pas des livreurs.
Eh oui, et donc, qui a été finalement la victime de l'entente? D'abord, les salariés. Puisque la concurrence, ça fait monter les salaires. Si vous me proposez de venir chez vous, a priori, je viens chez vous parce que vous allez mieux me payer. Donc la première victime, ce sont les travailleurs qui ont été privés finalement d'opportunités salariales. Puis un second aspect, dans cette guerre des talents, finalement, il y a une sorte de pacte de non-agression. Tu ne prends pas mes talents, je ne prends pas tes talents. Bah oui, mais alors du coup, si jamais moi j'ai une super innovation, j'ai besoin de beaucoup plus de talents, finalement, je ne vais pas pouvoir les prendre chez mon concurrent. Donc ça également brider potentiellement l'innovation. Donc c'est intéressant parce que pour la première fois, l'Europe condamne une entente sur le marché du travail. Alors les Américains l'avaient déjà fait. En 2010, comme par hasard dans la tech, c'était Google, Apple et Adobe qui s'étaient entendus également pour faire un no-poach agreement. Tu ne prends pas mes travailleurs, je ne prends pas tes travailleurs. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que le droit de la concurrence s'intéresse de plus en plus au marché du travail. Et d'ailleurs, Biden, il n'a pas fait grand-chose, mais Biden avait mis ce sujet-là sur la table en disant il faut aussi regarder les pratiques des entreprises sur le marché du travail. Il n'y a pas que les no-poach, il y a aussi typiquement les accords pour ne pas augmenter les salaires. On s'entend pour geler les salaires entre concurrents. Ça, c'est une bonne vieille entente par les prix. Je le rappelle, c'est en droit de la concurrence, les ententes sont anticoncurrentielles, sont sévèrement réprimées. En France, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de dossier. Il y a eu un dossier au Portugal, la Ligue portugaise de football, ils s'étaient entendus les clubs pour ne pas se prendre les joueurs entre eux. Là, on voit très bien, c'est-à-dire qu'un joueur a été privé finalement d'aller chez un concurrent.
Ça veut dire quand même, Isabelle, que la guerre des talents fait toujours rage, sinon...
Oui, j'allais dire, le fait que ce soit un sujet plus récent en Europe qu'aux États-Unis reflète peut-être aussi le fait que le marché du travail se porte finalement historiquement bien à l'échelle européenne, et en particulier sur des segments de travailleurs très qualifiés dans le domaine de la tech, etc. Il y a des vraies pénuries, donc c'est une bonne nouvelle en quelque sorte.
Denis.
Mais c'est vrai que c'est très intéressant aussi de le recontextualiser par rapport à la conjoncture économique, parce que là, on est dans un moment où... les tensions sur les recrutements ont été très élevées pour les travailleurs très qualifiés. Donc, on voit bien pourquoi il y a cet élément sous-jacent. Mais il y a d'autres moments dans la conjoncture économique où vous avez des organisations entre les entreprises pour assurer sur un bassin d'emploi, pour faire des prêts de main-d'œuvre. Donc, il y a, et là, c'est aussi une forme d'entente entre entreprises qui vise à la préservation de l'emploi, à ce qu'il n'y ait pas d'irréversibilité qui viendrait à la perte d'une qualification parce que des personnes, une entreprise vient à disparaître, n'a plus d'activité, et bien donc vous avez à l'intérieur d'un bassin d'emploi des personnels qui peuvent circuler d'une entreprise à l'autre. Donc vous avez des formes d'entente qui existent sur le marché du travail. Il va falloir bien discriminer entre celles-ci, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout de même nature que celles qui concernent Deliveroo et l'autre
Glovo. Entreprise.
Voilà, et Glovo. Mais il y a toujours des organisations qui doivent être jaugées au regard du contexte conjoncturel dans lequel...
Alors, contexte conjoncturel, vous m'envoyez une perche parfaite pour cette transition. Il y a l'OCDE qui vient de nous dire qu'elle abaisse sa prévision de croissance pour la France. On passe à 0,6%. Le problème, ce sont les tensions commerciales, comme quoi la France est aussi victime directement. 0,6 sur l'année, là, ça commence à être très faible, Isabelle.
Oui, c'est en ligne avec nos prévisions. Malheureusement, la croissance au premier trimestre est restée très faible. On était sur du 0,1. Donc voilà, les ménages sont inquiets. Je crois qu'on a une vraie panne de la consommation et je pense que ça reflète en partie les inquiétudes autour du budget et est-ce qu'on va être taxé davantage, etc. Et on constate que la France est effectivement un petit peu au point mort sur un certain nombre d'indicateurs, alors que le reste de l'Europe quand même reprend du poil de la bête.
Vous pensez que le taux d'épargne va continuer à grimper du coup?
Il faut espérer que non, parce que sinon ce sera vraiment une très mauvaise nouvelle pour la croissance. Effectivement.
Ouais. Emmanuel, Denis.
Peut-être sur. Enfin, déjà, c'est rassurant de voir que l'OCDE lit les prévisions de BNP Paribas comme celles de Rexecode, puisque nous sommes à 0,6 de croissance depuis déjà.
On attend juste que la Banque de France les lise pour se mettre à 0,6, et puis après le gouvernement.
Ça sent l'entente. Voilà, ça sent l'entente.
Ça sent le cartel.
Exactement. Non, mais bon, au-delà de la boutade, il y a eu la semaine dernière la sortie des comptes nationaux de l'INSEE. Et chaque fois que sortent les comptes nationaux, vous avez une révision, une relecture du passé qui s'effectue. Un point qui est très intéressant dans cette relecture du passé, c'est qu'on avait jusqu'à présent une représentation dans laquelle l'investissement des entreprises en France avait plutôt bien réussi, mieux qu'il ne l'avait fait en Allemagne. Eh bien, cette appréciation qui était portée jusqu'à présent a été modulée et modulée plutôt à la baisse. C'est-à-dire que le décrochage de l'investissement des entreprises que l'on observe depuis 2023 est plus fort que ce que l'on estimait initialement. Et en plus, l'expansion antérieure de l'investissement a été moins prononcée que ce que l'on estimait. Donc, vous avez une révision et en réalité, la projection vers l'investissement est plus faible. Autre élément qui a été révisé, ça, c'était pas avec les comptes nationaux, mais c'était avec les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi qui étaient initialement annoncés comme étant en progression, en réalité, on voit qu'il y a eu des pertes d'emplois intervenues au cours du premier trimestre. Donc, oui, sur les éléments qui forment la croissance, on va dire un peu longue, l'investissement et l'emploi, là, il y a des signaux d'alerte qui se sont plutôt accentués qu'ils n'ont diminué.
Emmanuel.
Alors, je pensais à croissance moins forte dans le monde, égale nécessairement dans mon secteur, enfin dans le secteur que je connais bien, transport aérien, moindre croissance du trafic aérien. Donc, on voit même au niveau sectoriel, les révisions à la baisse de la croissance, pas seulement en Europe, de la croissance mondiale, ont un impact direct. Il y avait hier les prévisions IATA. Et en fait, c'est simple.
On n'attendra pas les 5 milliards de passagers.
Alors, ils feront 5 milliards au lieu de 5 milliards 2. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les modèles pour prévoir la croissance du trafic aérien, c'est super simple. Il y a deux variables, le prix du billet et le PIB, et la croissance du PIB. Deux tiers de la croissance du trafic aérien est drivée par le PIB, un tiers par le prix. Parce que si vous avez moins de croissance économique, mécaniquement, vous avez une croissance moindre du trafic aérien. Donc, vous voyez, en plus, ces prévisions économiques très macro, vous les retrouvez très concrètement.
Mais prix qui est lié quand même au niveau du cours du baril du pétrole, qui lui est en baisse.
Bah oui et non, parce que d'un côté le prix du baril a baissé, mais vous avez en Europe les SAF, les carburants durables qui coûtent très très cher. Vous avez aussi les contraintes, les normes environnementales.
Les SAF, il y en a beaucoup aujourd'hui dans les avions, non?
Bah oui, mais sauf qu'il faut, ça coûte très cher, ça coûte à peu près 4 fois le prix. Donc c'est pas si simple que ça. L'effet prix est pas si marqué que ça. Par contre, on va voir un effet PIB, ce qu'on appelle en économie de l'élasticité revenu. Quand votre croissance économique est moins forte, votre transport aérien mécaniquement croît moins vite. Mais il faut le rappeler, le trafic aérien continue à croître dans le monde, à peu moins de 6% par an. Non, on a souvent la vision en France, on ne prend plus l'avion, c'est terminé. Le reste du monde continue à croître, notamment, on en a parlé hier aussi avec la commande de Indigo, en Inde, en Asie. À nouveau, on voit des différences très fortes selon les aires géographiques. Aux États-Unis, impressionnant, la croissance du trafic aérien, je crois, sera quasiment à zéro, pas loin de zéro. On voit à nouveau les effets PIB, PIB et incertitude économique.
L'avenir du monde est à Mumbai, comme dirait Jean-Marc Daniel.
Ouais.
Je cite Jean-Marc Daniel à chaque émission, comme ça je sais qu'on garde de bonnes relations. Merci à tous les trois. Je corrige votre titre, Isabelle Matteo-Silago, vous êtes chef économiste de BNP Paribas et non pas directrice des études. Je le dirai à Nicolas parce que c'est lui qui me donne les fiches avec les noms. On se retrouve demain pour une nouvelle émission des experts, la matinale à 6h, 9h. À demain, bonne journée. Vous retrouvez dans un instant sur BFM Business Marie-Cœur de Roy et ses experts de l'IMO.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.